On retrouve Elisabeth Antebi.
Rayon gamma, facteur epsilon. Un académicien des sciences nous parle des humanités. Aujourd'hui, François Gros, membre de l'Institut, professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur, et qui est secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Mais enfin, voilà bien des titres. Mais monsieur Gros, comment vous définiriez-vous ?
Rien n'est plus difficile que de se définir, comme je pense vous le savez. Mais je peux dire que dans l'ensemble, je suis donc un biologiste, c'est-à-dire que j'ai passé le plus clair de mon temps à m'intéresser aux choses de la cellule, de la biologie, mais un biologiste qui a navigué entre le laboratoire de recherche, l'étude et l'enseignement d'ailleurs de la biologie, et également la prise de responsabilité qui peut expliquer ce que vous avez rappelé tout à l'heure.
Vous avez même été conseiller pendant un temps d'un homme politique qui porte un nom latin. Ça ne s'invente pas.
Vous parlez de Laurent Fabius.
Absolument.
Oui.
Absolument.
En effet. Non, j'ai été conseiller pendant près de 4 ans, ce qui est d'ailleurs assez long, de 2 premiers ministres, Pierre Mauroy et Laurent Fabius, conseiller pour les affaires scientifiques, s'entend.
Alors, nous avons dit déjà bien des mots grecs. Il y a biologie, qui veut dire bios, la vie, bien sûr, et logos, nous le savons. Il y a cellule, cellula, la petite chambre, et bien d'autres encore. Est-ce que les humanités ont joué un rôle, peu ou prou, dans votre genèse, dans la genèse de votre pensée, votre vie ?
Alors, pour répondre à votre question, je suis un petit peu obligé, évidemment, de revenir sur mon propre parcours, et je m'en excuse, mais il est clair que je n'étais pas très doué pour les sciences a priori. En fait, je n'ai jamais eu un grand faible pour les mathématiques, et ce qui m'a décidé de me pencher vers les sciences dites naturelles à l'époque, en fait, c'était l'enseignement des leçons de choses qui nous était donné au lycée.
Donc de la physis, c'est-à-dire de la physique à l'époque des Grecs, physis voulant dire la nature. C'était la nature.
Oui, en réalité, on nous montrait un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire des cailloux, des roches, en même temps que des plantes. En fait, ce qui m'a surtout séduit, c'était d'emblée le fonctionnement des végétaux et le problème de la photosynthèse, qui était enseigné à l'époque dans le fameux livre de Boulay et Aubray que connaissaient à l'époque tous les enseignants du secondaire. Et la guerre est arrivée, j'avais l'intention de me tourner vers des choses plus, disons, plus fondamentales, parce qu'il faut dire que j'ai suivi la filière qu'on appelait la filière de la série A, c'est-à-dire latin-grec, et que pour cette raison, je m'étais longtemps interrogé sur la possibilité de faire de la philosophie. En fait, je voulais devenir philosophe, mais un philosophe qui s'intéresserait aux choses de la nature.
Ce qui était la vraie conception de la philosophie autrefois, puisque d'Aristote à Varron, Varron n'était pas philosophe, mais enfin, il a fait de la vulgarisation. Ce que vous avez fait aussi, nous y reviendrons, parce que ça, c'est une idée dont nous avons hérité des Grecs et des Latins, d'expliquer la science, parce que vous avez beaucoup expliqué la science dans beaucoup de livres chez Odile Jacob et ailleurs. Et cette idée d'expliquer la science, de la vulgariser, de la mettre à la portée du vulgus, du peuple, du vulgum, pecus, est une idée antique.
Oui, je crois que d'ailleurs que la science, d'un certain point de vue, a beaucoup de mal à expliquer la science. D'ailleurs, les scientifiques ne sont pas toujours très à l'aise dans l'explicitation et l'explication de leur démarche. Et pour ça, ils ont besoin de prendre du recul par rapport à celle-ci, de sortir en quelque sorte du créneau à l'intérieur duquel ils se trouvent. C'est la raison pour laquelle c'est là que les humanités aient une vision philosophique des choses prennent toute leur valeur, c'est-à-dire qu'on peut essayer de replacer la démarche scientifique à l'intérieur de ce qu'on peut considérer comme une logique, une sorte de système du monde, si vous voulez. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est en tout cas ce que les philosophes, la plupart du temps, essayent évidemment de remplir comme mission.
Non, vous l'avez fort bien fait, d'ailleurs, dans une trilogie que j'ai beaucoup appréciée, d'ailleurs, qui est Les Secrets. Je rappelle quand même que c'est Les Secrets du Gène en 86, La Civilisation du Gène en 89 et L'Ingénierie du Vivant en 90. Tout cela chez Odile Jacob. Et c'est d'ailleurs à cette époque que je vous avais connu. Mais revenons alors aux végétaux. Alors, vous avez commencé par les végétaux.
Oui, j'ai commencé par les végétaux. J'ai fait donc une sorte de parcours au niveau du baccalauréat vers la philosophie. Je voulais devenir philosophe plus ou moins de la nature. Et puis la guerre est arrivée. Ma famille m'a dit que c'était peut-être pas le moment de faire de la philosophie, qu'il fallait peut-être songer à des choses plus concrètes. Bref, j'ai subi toute une série d'avatars comme d'autres d'ailleurs. Et en définitive, c'est un peu par hasard d'ailleurs que je suis devenu, disons que j'ai choisi la filière universitaire des sciences. Je l'ai raconté d'ailleurs dans un ouvrage récent. Mes parents souhaitaient que je fasse ma médecine pour compliquer le tout. Et je me suis trompé d'ailleurs de fil à Toulouse, à l'université de Toulouse, parce que les deux facultés sont absolument symétriques l'une de l'autre. Et que j'étais complètement myope, donc j'ai pris la mauvaise file. Et en fait, c'est comme ça que je suis devenu un scientifique. Je me suis inscrit en fait à la licence de sciences naturelles.
Vous connaissez la phrase de Champfort, si le hasard était responsable de tout ce qu'on lui attribue, il s'appellerait Dieu.
En effet, je pense que la part du hasard est absolument considérable, même dans la démarche scientifique. En tout cas, ce que j'ai gardé de la formation par les humanités, donc par le latin et le grec, c'est un amour très grand pour l'écriture. C'est le désir de pouvoir expliquer sa démarche quotidienne autant que une démarche de long terme par l'écrit. Alors, vous me direz que les Grecs, ce serait plutôt par la parole, par l'expression évidemment orale. Pour les latins, c'est un petit peu autre chose. C'est justement la période latine qui m'a beaucoup impressionné, qui a fait que bon, je continue à écrire avec d'assez longues phrases, pas tout à fait malheureusement comme Proust, mais néanmoins, j'essaye de
comme Cicéron,
d'expliciter mon point de vue, mes sentiments, ma vision des choses à travers des phrases relativement longues. Et j'écris beaucoup, à peu près une dizaine ou une quinzaine de pages par jour.
Alors là, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que beaucoup de scientifiques, finalement, ont l'air de dire que sans ce recul d'une éducation qui leur a été donnée par les humanités, ils n'auraient pas cette richesse et cette dimension possible de regarder leurs propres travaux et de regarder les travaux des autres et donc de transmettre à ceux qui les entourent non pas seulement une vulgarisation, mais au fond, est-ce que la démocratie ne dépend pas de tout cela? Est-ce qu'à une époque où nous sommes tellement immergés dans les sciences et les techniques en aveugle, est-ce qu'on peut vraiment exercer la démocratie, le pouvoir du peuple, du démos, sans comprendre ce qu'on dit, ce qu'on voit, ce qu'on fait et ce qu'on vous applique comme médecine?
Vous avez tout à fait raison de souligner ce point. Je pense qu'on le peut de moins en moins, parce que la société exige de plus en plus que les scientifiques, s'insèrent dans la société elle-même et explicitent leur démarche. Pourquoi ? Parce que la science progresse à une telle vitesse, les techniques aussi, que l'explication de la démarche scientifique et des résultats surtout devient de plus en plus délicate parce qu'elle fait appel à une sémantique qui échappe la plupart du temps au public. Donc si on ne revient pas sans arrêt par un système de bascule ou de va-et-vient vers une sorte de synthèse de ce que l'on est en train de faire au niveau scientifique, on éprouve à ce moment-là beaucoup de difficultés dans les rapports humains avec le reste de la société. D'où d'ailleurs une menace qui est un peu d'ailleurs préoccupante pour nous autres scientifiques, de nous trouver justement un peu isolés, rejetés, avec des conséquences que l'on peut même percevoir au niveau d'une sorte de sous-estimation même de la recherche scientifique elle-même. Et le besoin, par conséquent, de s'expliquer de manière très fréquente. Alors, je dirais que, de ce point de vue-là, il y a un peu deux types de scientifiques. Il y a ceux qui ont suivi la filière des humanités, ceux qui ne l'ont pas suivi.
Comment... Est-ce que ça se ressent ?
Alors, ben, y a une catégorie de scientifiques qui sont peut-être ceux qui réussissent le mieux parce qu'ils approfondissent beaucoup plus, justement, leur science. Ils vont jusqu'au bout. Ils essayent de la respecter, évidemment, dans son esprit d'objectivité totale et de vérificabilité des faits.
Ce sont donc ceux qui ont suivi l'éducation humanité, latin-grec.
Et du coup, ils se sentent, disons, en quelque sorte redevables, surtout vis-à-vis de leur père. Ils sont donc jugés par leur père et par leurs publications scientifiques, par conséquent, mais sans nécessairement avoir une préoccupation immédiate et constante de la réaction de la société. Et il y a une autre catégorie de scientifiques qui font un petit peu du va-et-vient, justement. Et je crains d'appartenir un peu à cette catégorie.
Ah oui, donc c'est ceux-là qui ont la formation humanitaire, pardon. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui.
Et humanité. Qui ont besoin de temps en temps de se demander mais pourquoi je le fais ? Pourquoi la science que je pratique, comment peut-elle s'insérer dans la démarche contemporaine, à la fois de la société, mais aussi du monde et de la planète.
C'est donc une préoccupation éthique, et vous avez d'ailleurs employé le mot dans un de vos ouvrages. Et puis, c'est un de vos soucis, cette préoccupation aussi éthique.
Un peu différent de la préoccupation éthique telle que la plupart des gens l'entendent. C'est-à-dire, c'est plus une préoccupation de caractère philosophique, je crois.
C'est ainsi que l'entendaient les anciens Grecs.
Oui, oui, oui. Parce que l'éthique telle que je la vis en tant que biologiste et un peu à travers ma fréquentation avec la biomédecine, même si je ne suis pas médecin moi-même, c'est devenu quelque chose qui est à la frange à la fois de la morale et de la déontologie professionnelle. Et surtout depuis la fin de la guerre, la dernière guerre, pour des raisons que l'on sait. Et par conséquent, ça débouche sur des règles, des lois qu'il faut évidemment tenter de respecter. Mais il ne faut pas non plus, à mon avis, que ces règles-là étouffent en quelque sorte la pensée philosophique et du même coup la démarche scientifique.
Bien entendu, oui. Alors vous parliez du langage, il y a aussi, alors comme vous avez commencé dans les végétaux et qu'on a fait un peu un saut de côté, est-ce que justement dans les végétaux comme dans la zoologie que vous connaissez aussi, est-ce qu'il n'y a pas un langage commun qui est le latin tout simplement ?
Alors vous avez tout à fait raison de le souligner, j'ai toujours été fasciné par les mots latins des végétaux. C'est même, ça débouche sur un paradoxe, c'est que mon épouse me fait remarquer que je suis tout à fait incapable de reconnaître un végétal d'un autre, ce qui est peut-être un peu exagéré tout de même pour quelqu'un qui a fait un certificat de botanique générale avec mention très bien, mais néanmoins elle a raison. En revanche, j'ai une mémoire fantastique des noms latins. Pourquoi ? Parce que, non pas pour des raisons de classification justement, mais à cause de leur poésie. Je trouve que rien n'est plus beau que de parler de Euphorbia helioscopa, le forbre réveil matin, ou bien du chardon qui s'appelle Taraxacum dans Léonis, sa dent de lion, ou bien de Leonifera periclimenum qui est le chèvrefeuille, etc. Bon, il y a à la fois un mystère dans cette définition, et bien entendu, pour les taxonomistes, on retrouve bien entendu les clés de rapprochement qu'on fait justement les mots latins.
Et voilà donc un langage universel qui est encore maintenu jusqu'à nos jours, parce que les gens ne le savent pas, mais au fond, vous pouvez aller parler avec un Chinois ou un Esquimau d'une plante ou d'un animal et vous vous comprendrez.
Oui, et ce qui est intéressant d'ailleurs aujourd'hui, c'est la démarche qu'essayent d'emprunter les scientifiques du domaine de l'informatique, en liaison avec les gens qui font de la systématique botanique ou animale. Parce que vous l'imaginez, le nombre d'espèces connues étant de plusieurs millions, si l'on veut continuer à dénombrer les espèces vivantes, il faut qu'on puisse utiliser des outils autrement plus performants que ceux qu'on utilisait autrefois, consistaient à faire des herbiers ou à attraper des papillons et à les coller évidemment dans des boîtes avec du formol. Donc aujourd'hui, on utilise des classifications informatiques et il y a là une entreprise au sens planétaire du terme qui est menée par les taxonomistes du monde entier, beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, mais également beaucoup au muséum ici, Donc il y a une sorte de jonction très intéressante et à mon avis très touchante entre la démarche classique justement du botaniste épris de latin et en même temps la démarche ultra-moderne qui consiste à classer les choses par le biais des banques de données et de l'informatique.
Alors, vous parliez tout à l'heure de l'intérêt des humanités pour les scientifiques. Aujourd'hui, vous seriez conseiller encore d'un ministre. Est-ce que vous ne lui suggéreriez pas, peut-être, d'essayer d'influer pour garder les humanités, pour garder un mécanisme, une structure de pensée qui puisse permettre même à des journalistes, des gens qui sont formés dans le journalisme, à vous comprendre ? Est-ce que le journalisme, c'est-à-dire tous les médias, tout ce qui porte votre parole, au fond, puisqu'on ne s'exprime plus, vous le savez bien, qu'à la télévision ou par Internet, est-ce que tous ces gens-là n'auraient pas intérêt à avoir une formation qui leur permette de se distancier des passions, ce qui était bien le sens de l'éducation aux humanités, la bien nommée d'autrefois ?
Je crois qu'il y a vraiment là deux dimensions. Il y a celle que vous êtes en train de dessiner pour un individu qui serait un conseiller des grands, là, et qui, évidemment, à mon sens, aurait fortement besoin, justement, d'avoir été trempé dans l'océan des humanités pendant au moins quelques temps, de manière à s'exprimer avec le recul nécessaire et une certaine sagesse aussi. Mais il y a une autre dimension qui devient de plus en plus prégnante, c'est la dimension planétaire. Et celle-ci a tout de même beaucoup évolué depuis l'époque où moi je faisais mes humanités, puisqu'aujourd'hui la jeunesse est capable de maîtriser beaucoup de langues dites vivantes. Et de ce point de vue-là, si je, à Dieu ne plaise, je redevenais conseiller d'un ministre, je plaiderais à la fois pour une certaine formation par les humanités, latin, grec, ou même, pourquoi pas d'ailleurs, littérature française, et puis également pour une connaissance alors aussi étendue que possible, à la fois, disons, de la géolinguistique, c'est-à-dire de la connaissance des différentes pratiques linguistiques à travers différentes civilisations, d'autant plus importante que nous connaissons maintenant un réveil formidable de l'Asie.
Merci, Monsieur Gros.